Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, 300 drones et missiles qui peuvent changer le cours de l'histoire au Moyen-Orient. Samedi, l'Iran a répliqué à une frappe israélienne sur l'une de ses ambassades en envoyant directement vers le territoire israélien des drones et des missiles balistiques dont l'écrasante majorité a été interceptée. Et maintenant, la balle est dans le camp d'Israël. L'État hébreu va-t-il à nouveau riposté, au risque de l'escalade régionale et d'un conflit qui pourrait dégénérer? Après des années de guerre par proxy, par milices intermédiaires, l'heure est-elle désormais à la confrontation directe entre Israël et la République islamique? Alain Frachon est éditorialiste au Monde et spécialiste des relations internationales. Il nous explique. Israël-Iran, jusqu'où ira l'embrasement? Un épisode de Garance Munoz et Claire Leys, réalisation Amandine Robillard. Samedi 13 avril, 23h12. En Israël, les bars et les rues sont encore animés, mais en une seconde, l'atmosphère change. Sur les écrans des télévisions et des smartphones apparaît le visage de Daniel Hagari, porte-parole de l'armée. Il fait une allocution courte et alarmante.
L'Iran a lancé une attaque directe depuis le sol iranien vers l'État d'Israël. Nous surveillons de près les drones tueurs iraniens qui sont en route vers Israël. Il s'agit d'une escalade grave et dangereuse.
Pour la première fois, l'Iran est en train d'attaquer directement le territoire de l'État hébreu. Mais les drones et les missiles sont encore loin. Il leur faudra encore plusieurs heures pour atteindre Israël. La mission de Tsahal est donc simple, intercepter les tirs avant qu'ils ne touchent leur sol. Simple ? Non. Car au fil des minutes, les militaires réalisent que le nombre de tirs est massif, au moins plusieurs centaines. 23h45. L'Iran confirme l'attaque qu'il baptise « promesse honnête ». Sur la télévision d'État, le régime explique répondre, entre autres, à la frappe mortelle sur le consulat iranien à Damas, en Syrie, survenue deux semaines plus tôt. Le guide de la révolution iranienne, Ali Khamenei.
Lorsqu'ils attaquent le consulat, c'est comme s'ils attaquaient notre territoire. Le régime maléfique a commis une erreur. À cet égard, il doit être puni et il le sera.
Minuit. Les missiles se rapprochent. Israël annonce que son espace aérien sera fermé dans 30 minutes. L'Irak, frontalier de l'Iran, le Liban et la Jordanie, voisins de l'État hébreu, font de même. Minuit 20. Dans une pièce bunkerisée de Tel Aviv, Benjamin Netanyahou réunit son cabinet de guerre. Le chef du gouvernement israélien est entouré de son état-major et de ses plus proches collaborateurs. Une fois la réunion terminée, Netanyahou s'entretient avec Joe Biden. Le président américain a tenu de son côté une réunion de crise à Washington. Pendant ce temps, les missiles poursuivent leur course. 1h42 du matin, ça y est, des drones iraniens sont visibles dans le ciel israélien. Des sirènes retentissent dans tout le pays pour réveiller les habitants. L'armée israélienne déclenche des tirs pour intercepter les missiles. Au son des sirènes s'ajoute celui des explosions dans le ciel. 8h59, l'armée israélienne prend enfin la parole pour rassurer la population. 99% des drones et missiles ont été interceptés. Du côté iranien, le régime assure que l'incident est clos. Mais l'État hébreu en restera-t-il vraiment là ? Bonjour Alain.
Bonjour Jean-Guillaume.
Alain, on vient de faire le récit de cette attaque sur Israël et on va alors analyser avec toi les conséquences possibles de cette nouvelle étape du conflit au Proche-Orient. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'Iran a attaqué Israël à ce moment-là, samedi ?
La réponse la plus simple, c'est de dire que l'Iran a répondu, a répliqué à une attaque israélienne qui a lieu le 1er avril, donc lorsque Israël tire un missile, sans doute venant d'un chasseur bombardier, sur l'annexe consulaire de l'ambassade d'Iran à Damas, en Syrie. Et là, sont tués 3 commandants en chef des gardiens de la révolution, qui est véritablement le bras armé du régime iranien, dont le général Zaidi, qui est l'homme qui commande le réseau de milices qui sont au service de l'Iran dans le monde arabe, lesquelles milices menaient depuis le 7 octobre ou le lendemain du 7 octobre une bataille par solidarité avec le Hamas palestinien, menaient une bataille contre Israël. Cette fois-ci, les Israéliens ne se sont pas contentés d'attaquer le Hezbollah au Liban, qui fait partie de ces milices, les milices irakiennes qui sont présentes en Syrie et en Irak, mais les Israéliens ont carrément frappé le parrain. Le parrain, c'est-à-dire l'Iran, en attaquant la branche consulaire de l'ambassade d'Iran, de la République islamique d'Iran, à Damas. Et donc, la réputation, la crédibilité, la capacité de la République islamique à maintenir aussi son réseau de milices arabes, tout ça était en jeu. On savait que l'Iran allait répliquer, on ne savait pas quelle forme prendrait la réponse iranienne, mais l'Iran ne pouvait pas ne pas répliquer dans ce jeu de dissuasion et de crédibilité qu'il y a au Moyen-Orient.
Et je renvoie nos éditeurs, Alain, vers un autre épisode de L'Heure du Monde, passionnant d'ailleurs, qu'on avait enregistré ensemble et où tu nous expliquais en détail cette toile d'araignée milicienne mise en place par l'Iran avec le Hezbollah, les Houthis, le Hamas. On vous met le lien dans la description de cet épisode. Alors, pour revenir à l'attaque de samedi, on a l'impression, Alain, qu'elle a été non seulement soigneusement préparée par l'Iran, mais également très anticipée par Israël et les États-Unis.
En langage plus coutumier, on dit que c'est une opération téléphonée. C'est-à-dire que les Iraniens ont pris soin de faire savoir, non seulement aux pays arabes de la région, mais probablement aux États-Unis aussi, sinon voire aux Européens qui sont militairement présents dans la région, comme les Britanniques ou comme les Français, de leur faire savoir qu'il y allait avoir une réponse, que cette réponse prendrait la forme, une forme aérienne. Alors ça peut être des drones, ça peut être des missiles, tout ce que vous voulez. Parce qu'il ne faut jamais oublier que Téhéran, c'est pas loin de 2000 kilomètres de Tel Aviv ou de Jérusalem. Donc, c'est pas facile. Donc, n'importe quelle réponse iranienne allait passer dans l'espace aérien de nombreux pays. Et on le savait. On ne savait pas quelle forme ça prendrait. Mais le seul fait que l'attaque allait provenir du territoire iranien a pu nous surprendre. Parce qu'on pouvait imaginer que l'Iran répondrait par milices arabes interposées. On pouvait penser que la petite guerre à laquelle on assiste depuis le 7 octobre allait continuer. L'Iran a décidé deux choses. L'attaque partirait du territoire iranien et deux, l'attaque serait massive. 300 projectiles.
Massive, mais donc, tu le disais, téléphoner pour éviter l'escalade, pour que la partie adverse ait le temps d'intercepter les missiles. Est-ce qu'on peut faire un bilan de cette attaque, d'ailleurs ?
Bien sûr. Alors, massive, c'est effectivement la surprise. C'est le nombre de projectiles utilisés par l'Iran, donc des drones, mais des drones iraniens, des Shahed, qui vont très lentement. Ça veut dire qu'ils sont très faciles à abattre. Ensuite, des missiles balistiques qui sont pas très précis, mais vraisemblablement, les Iraniens avaient pris soin de ne les tirer que vers le désert du Negev, de façon à ce qu'aucun village, aucune municipalité, aucune localité, voire même aucune base militaire israélienne ne soit touchée. Et enfin, il y avait aussi des missiles de croisière, c'est sans doute l'arme la plus pertinente et celle qui faisait le plus peur dans cette histoire. Mais là encore, il semble que les missiles de croisière ne visaient aucune zone habitée de l'État d'Israël. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, c'est très simple, c'est que vous avez dans la région plusieurs bases américaines. Vous avez aussi des bases françaises et britanniques. Mais toutes les bases américaines, sans compter les bateaux de la flotte américaine qui peuvent être en mer Rouge ou dans le golfe Persique, toutes ces bases sont équipées d'un dispositif anti-aérien. Et puis vous arrivez ensuite, lorsque les projectiles arrivent dans le territoire israélien, dans l'espace aérien israélien, d'abord on savait qu'ils arrivaient, ils avaient été repérés, et très peu sont arrivés dans l'espace israélien, parce que la plupart ont été abattus avant. Et bien là, vous avez ce que les Israéliens appellent le dôme de fer. Il y a un maillage du territoire à avec de la défense antiaérienne et notamment les célèbres missiles antimissiles Patriot. Eh bien, ce maillage n'a pas été percé par les projectiles iraniens.
Ok Alain, donc une attaque de l'Iran en réponse à une précédente attaque israélienne. Et maintenant, est-ce qu'il y a désormais la tentation pour Israël de riposter à nouveau et de s'attaquer directement à l'Iran, par exemple, provoquant une escalade régionale ?
Alors, c'est une région qui fonctionne sur des critères assez basiques en matière stratégique, le Moyen-Orient. Ce sont des critères de cours de récréation. C'est-à-dire que, voilà, si tu m'attaques et que je ne réponds pas, je montre que je suis faible. Et si je montre que je suis faible, alors tu vas m'attaquer à nouveau. C'est comme ça, le Moyen-Orient. C'est pas la peine de faire des études en stratégie. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, les Israéliens, de ce point de vue, ont exactement la même mentalité que les pays arabes. Et donc, de dire, voilà, pour la première fois, Israël est attaqué directement par la République d'Iran. Israël a déjà été attaqué directement, notamment par l'Irak. En 1990-1991, l'Irak a tiré des missiles balistiques sur Israël. Donc ce n'est pas la première fois qu'Israël est attaqué avec des missiles balistiques. Mais là, c'est l'Iran, c'est-à-dire un adversaire déclaré, un pays qui veut la disparition d'Israël. Si Israël ne répond pas, tous les stratèges israéliens vous diront, nous montrerons notre faiblesse et nous serons encore plus attaqués, sinon par la République islamique elle-même, mais surtout par toutes les milices qui sont à son service dans le monde arabe, le Hezbollah, les milices irakiennes, les Houthis, etc. Et donc, il faut répliquer. Voilà la question qui est maintenant posée aux Israéliens. Faut-il répliquer ?
Et comment se positionne le gouvernement israélien face à cette question pour l'instant ? Faut-il répliquer ?
Alors, il y a eu une réunion, naturellement, du cabinet de guerre israélien, qui comprend les grands chefs de l'opposition. C'est un cabinet qui a à peu près 6 personnes, et dont il n'est pas sorti grand-chose, ou en tout cas, les Israéliens ont maintenu une position qui est une position stratégique d'ambiguïté, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'ils vont faire. L'Iran ne le sait pas, et nous-mêmes, nous ne le savons pas. En revanche, ce que nous savons, parce que ça c'est public, c'est les divisions au sein du gouvernement israélien. Avec une aile dure qui dit « c'est le moment ou jamais » pour attaquer les installations nucléaires du programme iranien. Peut-être pas toutes les installations, mais c'est le moment de frapper un grand coup et pour retarder le projet nucléaire iranien, ce qui conduirait vraisemblablement à une guerre régionale. Donc, débat au sein du cabinet. Qu'est-ce qu'on sait de Benjamin Netanyahou dans ce genre de situation ? Si l'on oublie ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, on sait une seule chose de Netanyahou. Ce n'est pas un va-t-en-guerre. Il est très prudent lorsqu'il s'agit de ce genre de situation. Donc voilà où on en est. Et il n'est pas improbable que nous restions longtemps dans cette interrogation.
Donc voilà pour le débat politique côté israélien. Qu'est-ce qu'il en est du côté iranien ? Parce que il semble que tout en orchestrant cette attaque massive vers le territoire israélien, l'Iran ait voulu, dans le même temps, ménager la possibilité d'une désescalade en prévenant à l'avance les États-Unis notamment. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le régime est prêt à entrer dans un conflit qui monte en intensité ou pas ?
Alors, elle s'est positionnée officiellement. À plusieurs reprises, il y a eu des communiqués émanant soit de l'armée iranienne, soit du gouvernement iranien. Pour eux, c'est fini. Ils considèrent que l'opération est terminée. S'il n'y a pas d'attaque israélienne qui arrive maintenant, ou dans les semaines, ou dans les jours qui viennent, l'Iran considère que l'incident est clos. Ils ont répliqué à l'attaque israélienne qu'il y a eu contre leur consulat à Damas, en Syrie, et ils estiment que leur crédibilité est rétablie et que l'incident est clos. Ils l'ont dit publiquement à plusieurs reprises.
D'autant, Alain, que ce n'est pas l'intérêt du régime qui cherche sa préservation, quelque part, à rentrer dans cette escalade avec Israël.
Non, et là encore, les Iraniens ne font pas secret de leurs ambitions. Leur objectif premier, ce n'est pas la cause palestinienne, leur objectif premier, c'est leur projet nucléaire. C'est de mener à bien leur programme nucléaire. C'est-à-dire de devenir, peut-être dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, ce qu'on appelle un pays du seuil. Un pays du seuil, c'est un pays qui peut monter une arme nucléaire qui a non seulement les missiles, mais aussi la tête nucléaire, qui sait faire l'assemblage, et c'est un pays qui peut se doter en quelques mois de l'arme nucléaire. Ça, c'est ce que veut la République islamique, et elle pense que ça la protégera. Il y a aussi une raison peut-être plus domestique ou plus intérieure, qui est qu'elle n'est pas sûre de sa popularité. Ça fait depuis 10 ans maintenant, des manifestations sont permanentes, et depuis 2 ans encore, il y a 2 ans encore, dans toutes les villes, y compris les toutes petites villes d'Iran, les femmes sont descendues dans la rue. Les femmes se sont révoltées, les iraniennes se sont révoltées, et c'était pas seulement la bourgeoisie de Téhéran, d'Isfahan ou des autres grandes villes. Non, c'était vraiment une révolte profonde qui les a marquées et qui a manifesté une fois de plus que ce régime n'est pas sûr du tout de sa popularité.
Ok, donc on comprend que à la fois pour rester concentré sur son programme nucléaire, mais aussi éviter toute contestation populaire, l'Iran a plutôt intérêt à rester à l'écart d'un conflit qui s'embrase. Alain, j'aimerais maintenant qu'on parle d'un autre acteur qui peut participer à calmer le jeu. Ce sont les États-Unis de Joe Biden. On sait que Biden a beaucoup de mal à retenir Benjamin Netanyahou dans la guerre à Gaza. Est-ce qu'après avoir aidé à défendre le territoire israélien, il peut au moins retenir Israël d'enclencher une escalade avec l'Iran ?
Biden dit publiquement aux Israéliens, ne répliquez pas. On vous laisse la décision, c'est votre décision, on ne la contestera pas. Mais nous ne voulons pas tomber dans une guerre avec l'Iran. Nous ne voulons pas être entraînés dans une guerre avec l'Iran. Ce n'est pas le moment. Nous considérons que ce serait une erreur stratégique. Et autrement dit, c'est le moment de calmer le jeu. Voilà ce que les Américains disent, non pas en privé, mais ils le disent officiellement. Ça veut dire que la crédibilité de Joe Biden est véritablement en jeu. Elle est sur la table aujourd'hui. Si Netanyahou ne suit pas ce que dit Joe Biden, c'est un coup terrible infligé à la crédibilité des États-Unis dans cette histoire.
Passons maintenant aux derniers États qui ont eu un rôle dans l'attaque de ce week-end. Ce sont les pays arabes sunnites, puisque des États comme la Jordanie notamment ont participé à abattre des projectiles iraniens et donc à défendre Israël. Est-ce que tout cela, le retour de Téhéran comme ennemi commun, est de nature à relancer le processus de normalisation israélo-arabe qui avait été amorcé notamment par les accords d'Abraham, mais qui avait du plomb dans l'aile depuis le 7 octobre et la guerre à Gaza?
Alors, une première réponse à cette question, c'est non. Je ne vois pas les pays arabes, et notamment le plus concerné d'entre eux, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, qui est le leader du monde sunnite. Le sunnisme, c'est la branche majoritaire de l'islam, l'Iran étant un pays chiite, majoritairement sunnite. Je ne vois pas l'Arabie saoudite reprendre sans condition un dialogue avec Israël pour normaliser ses relations avec l'État hébreu, comme l'ont fait au moment des accords d'Abraham que vous évoquiez, comme l'ont fait l'État des Émirats arabes unis ou le sultanat de Bahreïn. Parce que ces pays, si vous voulez, sont pris entre... Il y a leurs opinions publiques ne le souhaitent pas, ce ne sont pas des régimes forcément très populaires, mais l'opinion publique arabe ne souhaite pas, en ce moment, la poursuite du processus de ce qu'on a appelé des accords d'Abraham. Et ça n'a pas lieu. Et je crois que ça n'aura pas lieu tant que la guerre se poursuit à Gaza, et j'irai même plus loin encore, parce que les États-Unis sont un des acteurs principaux de ces dialogues entre le monde arabe et Israël, et les États-Unis ont dit, nous, on ne recommence pas à jouer les médiateurs s'il n'y a pas la perspective d'un État palestinien au Moyen-Orient. C'est leur position publique. Donc je ne crois pas que ça va se passer. Pour des raisons d'opinion publique arabe, je ne vois pas la reprise d'un dialogue de celui que vous évoquiez. En revanche, ce qui se passe, c'est que vous s'est reformé là, d'une certaine manière, une alliance stratégique qui a toujours existé depuis une dizaine d'années. C'est l'alliance entre Israël et les régimes arabes sunnites. Parce qu'ils ont un ennemi commun, c'est l'Iran. Même si tous les pays arabes ont maintenant rétabli des relations diplomatiques avec l'Iran, l'Iran continue à leur faire peur. Et parce que l'Iran continue à leur faire peur, ils sont les alliés stratégiques d'Israël. Et lorsque des missiles passent au-dessus de votre espace aérien, vous ne vous posez pas la question de savoir d'où ils viennent, vous les abattez si vous pouvez. C'est ce qui s'est passé avec la Jordanie. Je ne sais pas s'il y a eu la même chose avec l'État des Émirats Arabes Unis, on le saura peut-être plus tard. Mais voilà ce qui a pu se passer, c'est que c'est reformé de manière, si vous voulez, non officielle, bien sûr, une sorte de front stratégique entre les régimes arabes sunnites et l'État d'Israël face à l'ennemi commun.
Dernière question, Alain. Est-ce que ces événements du week-end et leur éventuelle suite, ils sont de nature, selon toi, à modifier le cours de la guerre qui est encore en cours à Gaza actuellement ?
Peut-être. Peut-être. Il y a un scénario qui est sur la table. C'est que dans la discussion que les Israéliens peuvent avoir avec les États-Unis, puisque les États-Unis leur demandent de faire quelque chose, en l'occurrence de ne rien faire, de ne pas attaquer l'Iran, les Israéliens peuvent dire, écoutez, Benjamin Netanyahou peut dire au président Biden, écoutez, moi j'ai des ultras dans mon cabinet qui veulent que j'attaque l'Iran. Alors je veux bien suivre vos conseils, je comprends que vous ne voulez pas d'un engagement avec l'Iran en ce moment, que ce serait terrible, et pas seulement pour des raisons électorales aux États-Unis, mais que ce serait une guerre régionale dans la région, c'est entendu, nous suivrons votre conseil et nous ne répliquerons pas, en tout cas publiquement, ni de façon très ostentatoire, à ce qui s'est passé lors de l'attaque iranienne. Mais alors, à ce moment-là, laissez-nous libres d'agir à Rafah, laissez-moi mener ma campagne de Gaza jusqu'au bout et attaquer la ville de Rafah où sont réfugiés à peu près 1 500 000 Palestiniens. Or, les États-Unis avaient dit, avant ces événements d'Iran, nous ne voulons pas que vous vous lanciez dans une attaque contre la ville de Rafah qui est à l'extrême sud de la bande de Gaza. Donc oui, il peut y avoir des répercussions, bien entendu, dans la bataille qui se livre actuellement entre Israël et Hamas dans la bande de Gaza.
Merci Alain.
Merci Jean-Guillaume.
Et pour suivre l'évolution du conflit entre Israël et l'Iran, je vous renvoie vers les articles du service international sur lemonde.fr. Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler également que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour profiter de notre offre spécialement faite pour les auditeurs et auditrices de L'Heure du Monde. Un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.